Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui on va parler de la grande distribution avec Carrefour, de la distribution bio avec Horror Market, des pauses déjeuner au travail et à l'école, ainsi que du marché du vin et spiritueux aux US et du rapprochement entre LVMH et Jay-Z dans les champagnes. Bah, commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Le Figaro, Alexandre Bompard, l'histoire ne repasse pas les plats, nous avons tourné la page. Alors Olivier, le PDG de Carrefour a pris la parole et il nous apprend beaucoup sur les stratégies du géant de la grande distribution.
Oui, tout à fait. Carrefour a présenté ses résultats pour l'année 2020. Donc, c'est Alexandre Bompard qui a répondu à pas mal d'interviews sur l'année écoulée. Et il est notamment revenu donc, à la fois sur les résultats du groupe et sur plus récemment l'opération de rapprochement avorté avec Couche-Tard.
Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit que c'était son devoir d'examiner cette offre-là avant de proposer un projet au conseil d'administration. Mais les gouvernements, notamment Bruno Le Maire, a mis un veto. Donc, de toute façon, les négociations étaient arrêtées.
Oui, voilà. A priori, Alexandre Bompard a été contacté au mois de janvier pour une éventuelle opération de ce type-là. Quand le gouvernement en a eu vent, Bruno Le Maire, effectivement, en plus, c'était assez étonnant parce que Bruno Le Maire l'a fait dans une émission télé sur France 5. Donc, c'était assez bizarre de voir ça. Maintenant, a priori, il y a toujours des discussions avec Couche-Tard qui ne sont pas sous forme de rachat, mais qui seraient plus un partenariat.
Ouais. Mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il dit bah, avec aujourd'hui 80 milliards d'euros des chiffres d'affaires, nous n'avons pas de problème de taille critique, en fait.
Non, c'est vrai que 80 milliards, c'est quand même un gros acteur, même au niveau mondial. Bon, ils sont loin de Walmart au niveau du chiffre d'affaires, mais par rapport à d'autres acteurs, ils sont plutôt bien positionnés.
Mmh. Et l'e-commerce aussi a connu une énorme augmentation. Évidemment, et ce qu'il dit, c'est que la crise du Covid a marqué une rupture définitive. Elle a accéléré le développement de l'e-commerce dans tous les pays, pour tous les produits et toutes les générations. Il n'y aura pas de retour en arrière.
Oui, on apprend d'ailleurs que Carrefour, en 2020, a gagné 1,3 million de nouveaux clients.
Énorme.
Donc, c'est au niveau mondial. Hein.
Ah, au mondial.
C'est au niveau mondial. Ouais. Mais quand même, quand on regarde ce chiffre, c'est énorme. Hein. Et du coup, les ventes en ligne, elles ont augmenté de 70% dans le monde. Mmh. Et elles sont passées à 2,7 milliards d'euros.
2,7 milliards, d'accord. Et ils prévoient d'atteindre donc 4,2 milliards en 2022.
Oui, c'est un objectif assez ambitieux. Et 2022, c'est dans un an. Hein,
donc, ça va vite.
Allez, on va dire un an et demi pour la fin 2022, mais ça veut dire qu'il faudrait quasiment, effectivement...
Doubler en deux ans, quoi.
Ouais.
Et on apprend aussi que donc, Carrefour est devenu le leader de la livraison à domicile en France avec 25% des parts des marchés.
Oui, j'étais étonné de cette part de marché. C'est quand même
c'est énorme.
Gros,
hein. Moi, je ne m'attendais pas à 25.
Un quart du marché, c'est...
Je ne voyais pas Carrefour aussi pointu dans l'e-commerce.
Non, moi non plus. Je m'attendais à un peu moins. On sait que Leclerc, lui, est leader sur le drive.
Mm-hmm.
Et je ne savais pas que Carrefour avait cette part de marché-là dans la livraison.
Et il revient aussi sur la faible valorisation des Carrefour qu'on a évoqué ici dans d'autres épisodes. Et il dit que la distribution alimentaire souffre du scepticisme des marchés financiers. Depuis 10 ans, l'indice du secteur européen a sous-performé des 50%, c'est lui de principale valeur. C'est mon rôle de les convaincre, de convaincre les investisseurs, quoi.
Oui, et puis ça tient aussi au fait que y a eu les GAFA, il y a eu toutes les technos qui ont vraiment surperformé en bourse.
Bien
donc, je pense que les investisseurs se sont un peu détournés de ces valeurs brick and mortar, comme on appelle des fois.
Mm-hmm.
Donc, Il n'y a pas que Carrefour qui est concerné par ça. Il y a même des acteurs de l'agroalimentaire. Hein, si tu regardes le cours de Danone, il n'est pas très haut. Donc, c'est un peu tout un secteur qui a été dévalorisé au profit des big tech américaines ou chinoises.
Qui attire plus les investisseurs, bah ouais. C'est normal. On continue avec un deuxième article sur Carrefour et son PDG. Donc, c'était sur Challenge. Carrefour, quel défi pour Alexandre Bompard après une année hors norme ? We are back. C'est avec cette phrase, lors de la présentation des résultats 2020, que le PDG de Carrefour a résumé la situation de l'entreprise en ces débuts d'année.
Oui, alors a priori, on a un chiffre d'affaires qui est en hausse de 7,8%. Alors a priori, c'est un chiffre d'affaires à périmètre constant et un résultat opérationnel qui est en hausse, lui, de 16%.
C'est énorme.
Donc, c'est plutôt une belle performance.
C'est une belle performance, on est d'accord.
Effectivement, vu le contexte, on s'attendait tous à ce que les distributeurs aient une belle marge de progression au niveau du chiffre d'affaires.
C'est clair.
Là, la marge, elle est aussi intéressante. Sachant que bah, de toute façon, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une grosse marge parce qu'il y avait les problèmes sanitaires, il y avait moins de monde en magasin.
L'augmentation de l'e-commerce qu'on a vu que voilà. A un impact aussi sur les
donc
marges.
Ça peut impacter les marges. Donc cette fois-ci, Challenge...
Quels sont les défis, Olivier, donc, qui évoquent Challenge en fait ?
Alors, ils évoquent 4 défis en tout.
D'accord.
Donc premier défi, c'est la vitesse d'exécution. Alexandre Bompard, il doit accélérer et donner une visibilité aux investisseurs cette fois-ci. Il y a eu une bonne année... Mais voilà, tout le monde sait que c'est conjoncturel, finalement, c'est aussi dû au Covid. Et maintenant, il faut accélérer. Et il y a un objectif qui a été atteint de 3 milliards d'euros de baisse de coûts.
Énorme.
À fin 2020.
Oui.
Et du coup, Carrefour a remis un coup d'accélérateur sur la baisse de coûts. Et ils voudraient faire 2,4 milliards d'euros d'économies d'ici 2023.
C'est qui reste énorme pour un chiffre d'affaires de 80 milliards d'euros. En fait, ça peut avoir un impact très important sur le résultat opérationnel de la boîte.
Reste à savoir où est-ce qu'ils vont les gratter.
Justement, c'est l'analyste qui suit les dossiers de près. Elle dit, le hic, ils n'ont pas été clairs sur l'origine de ces milliards. Et justement, les syndicats, quant à eux, s'inquiètent parce qu'apparemment, Carrefour va passer de nombreux supermarchés et hypermarchés en location-gérance dans les cadres de ces procédés. En fait, ce n'est plus Carrefour, mais les gérants qui sera employeur des salariés des magasins, faisant peser un risque potentiel sur les conditions de travail.
Oui, du coup, peut-être que ça veut dire que Carrefour va baisser sa masse salariale. Et c'est peut-être là qu'ils vont gratter les coûts, finalement.
Et voilà.
On peut imaginer ce montage-là.
Et donc, c'est plus Carrefour, l'employeur des employés en magasin, en fait. Voilà. C'est les gérants.
C'est tous ces gens-là qui sortiraient de la masse.
Et évidemment, ça inquiète les syndicats. Quel est le deuxième défi ?
Alors, deuxième défi, c'est le e-commerce. Bah, on vient de le voir.
Ouais.
Carrefour a bien performé. Il veut doubler quasi en 2 ans. Alors, le problème, c'est que là-dessus, il va être en frontal. Avec des acteurs qui investissent énormément. Alors,
tout à fait.
Ce n'est pas des acteurs auxquels on pense forcément, mais Uber Eats, Deliveroo, voire même Amazon sur certains marchés.
Ah,
on a vu qu'ils reculaient un peu en France là-dessus, mais ils ont quand même encore le partenariat avec Monoprix. Donc, ça reste des acteurs.
Et des nouveaux acteurs des dark stores qu'on a évoqués,
voilà.
Comme Cajou et d'autres en Europe. Quoi.
Tout à fait.
Et il y a un troisième défi sur les prix aussi.
Alors, la bataille des prix, on en a
qu'on
parlé
a
la semaine dernière.
Voilà.
Donc Carrefour, lui, il est dans la moyenne. Il n'est pas dans les meilleurs élèves, si on peut dire, au niveau des prix.
Mm-hmm.
Il bataille avec Géant, Hyper U et Leclerc. Donc du coup, là-dessus, Carrefour est aussi attendu parce que il faut, quand on est un distributeur, proposer des prix bas pour attirer les clients.
En même temps, Bompard, dans son interview au Figaro, il disait qu'ils avaient terminé la négociation avec les producteurs en protégeant un maximum les valeurs pour les producteurs, pour les agriculteurs. Donc, il ne peut pas faire les deux, en fait. Soit il va mieux payer les producteurs, soit il va proposer des prix plus faibles. Et les quatrièmes défis, on a évoqué, c'est les cours des bourses, en fait.
Voilà, c'est l'un des objectifs d'Alexandre Bompard, c'est aussi d'augmenter la valeur de l'action. Alors, ils l'ont fait mécaniquement, comme le font un certain nombre d'acteurs, en rachetant
des actions.
Des actions.
Mm-hmm.
Donc, mécaniquement, ça fait augmenter le cours de l'action.
Bien sûr, ça réduit les nombres d'actions disponibles.
Et l'idée derrière ça, c'est qu'en fait, Alexandre Bompard aurait été mis à la tête de Carrefour par les deux familles qui détiennent une grosse partie du capital de Carrefour.
Les familles Arnaud, Delvemache et Moulin, Galerie Lafayette.
Voilà, avec l'idée de faire monter le cours pour eux, après, sortir du capital de Carrefour à un bon prix.
C'est les rêves de Bernard Arnault, c'est de quitter Carrefour. Mais il faut que ça se fasse au bon prix.
Voilà. On ne sort pas à n'importe quel prix.
On est d'accord. Et moi, j'ai rajouté un cinquième défi pour Carrefour en 2021 qui n'a pas été évoqué dans l'article, mais c'est le bio. Parce qu'en fait, il va falloir émettre bio, c'est bon, dans les rails, qu'ils ont fait finaliser l'acquisition en fin d'année dernière. Et ils ont aussi plusieurs enseignes bio dans son portefeuille. Ils ont Carrefour Bio, Sau Bio, Bio Azure, Greenwiz sur l'e-commerce. Et maintenant, bio, c'est bon.
Ouais, donc va falloir gérer, est-ce que tout va être mis sous la bannière Carrefour Bio ou est-ce qu'on garde bio, c'est bon, je sais pas ce qu'ils ont décidé exactement.
J'avais vu des rumeurs qu'ils allaient plutôt faire l'inverse, mais on aura la probabilité de parler de ça dans des épisodes à venir.
Et, ou si Alexandre Bompard veut venir nous en parler, on sait jamais.
Alexandre, tu es le bienvenu chez Business of Bouffe et It's Business pour parler de Carrefour. En parlant des bio, on passe tout de suite à un article qui met en lumière un acteur engagé de la distribution bio. C'était sur les JDD, Aurore Market, bio et solidaire à la fois. Olivier, cet article du JDD nous amène en Auvergne pour découvrir une success story du e-commerce alimentaire français.
Oui, il s'agit d'un site qui a été lancé en 2018 et qui s'inspire d'un modèle américain qui s'appelle
Thrive Market.
Et qui est basé justement en Auvergne et qui du coup est spécialiste du bio mais en circuit court. C'est-à-dire qu'ils vont acheter directement, quand on parle de circuit court, c'est pas forcément du local, c'est vraiment on réduit les intermédiaires.
Mm-hmm.
Donc réduire les intermédiaires, ça permet aussi de réduire les marges de tous ces intermédiaires,
mm-hmm,
et donc d'avoir des meilleurs prix.
Ouais, ce qu'il dit, c'est qu'ils vont se concentrer sur très peu de références, mais ils vont faire du volume sur ces références, ça leur permet d'avoir des prix plus intéressants.
Bah, plus on achète en volume, moins on va payer cher. Et là, en fait, ce qui est intéressant chez Aurore Market, c'est qu'ils fonctionnent avec un droit d'entrée, si je pourrais dire. C'est une sorte d'adhésion.
D'accord. Ça, c'est la spécificité de leur modèle, en fait.
Ouais, c'est un peu, Costco fait aussi ça. Enfin, mm-hmm, c'est mm-hmm, des modèles, des modèles comme ça. Donc, pour adhérer, il faut payer 60 euros.
Mm-hmm.
Ça vous donne accès à la gamme, à toute la gamme de Aurore Market. Il y a à peu près 4000 produits référencés.
Mm-hmm.
Et c'est un site qui compte aujourd'hui 20 000 clients réguliers, ils envoient environ 800 colis par jour.
800 colis par jour,
ouais,
c'est énorme. Hein.
Alors, on ne connaît pas la valeur du colis, hein, mais
on dit que c'est à 50 euros, on va dire en moyenne, les tickets moyens, on est à 40 000 euros par jour.
Pas mal.
Ça commence à faire un bon petit business.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas de dépenses marketing, ils ne font pas de pub à la télé.
Parce qu'une fois qu'on est adhérent, on a envie de racheter,
voilà,
parce qu'on a des prix plus faibles, on parle autour de nous, on fait du bouche à oreille et ça leur évite de dépenser de l'argent en marketing.
Voilà.
Bah, c'est
donc
génial.
C'est aussi ça qui leur permet finalement de réduire leur marge sur ces produits bio, hein, finalement.
C'est très intéressant. Et il y a deux éléments aussi intéressants à souligner. C'est qu'ils ont déjà une grande variété des produits disponibles en vrac qu'on peut se faire livrer via l'e-commerce. Et aussi, ils ont un partenariat assez spécial avec C'est qui les patrons. Je n'ai pas trop bien compris, mais C'est qui les patrons a même une section dédiée sur les sites d'Aurore Market.
Oui, a priori, ils ont une section sur le site. Alors, je n'ai pas été voir. Hein. Je ne suis pas client Aurore Market personnellement. Mais pourquoi pas, on peut essayer.
Bah, je ne me suis pas baladé sur les sites, je ne suis pas client non plus, mais ça me donne envie d'essayer pour voir comment ça fonctionne.
Et moi, il y a une dernière info que je trouve intéressante, c'est qu'en fait, ils lancent aussi une collecte pour les étudiants en difficulté. Donc, vous pouvez aller sur le site où le lien est sur la newsletter. Hein,
mm-hmm.
Et chaque euro collecté, ça permet de réaliser un panier d'une trentaine d'euros qui sera envoyé aux étudiants qui se seront inscrits sur
Top.
Le site.
Top. Ah, c'est chouette, ça. C'est bonne initiative. Ouais. On va parler d'autres initiatives à la fin du podcast. Et juste un autre point, au-delà de cette initiative, en fait, Aurore Market a un programme qui s'appelle Aurore Universel qui permet déjà à leurs clients actuels d'offrir un abonnement à une famille à faible revenu. Donc, je peux dire, voilà, je vais offrir à cette famille-là un abonnement de 60 euros. Et comme ça, la famille a accès aux produits à un prix plus intéressant sans devoir payer l'adhésion.
C'est intéressant, ça nous fait penser à la Louve un peu. Hein,
un peu à la Louve, tout à fait.
Hein,
ouais.
Alors, je ne sais pas quel statut ils ont exactement Aurore Market, mais ça fait penser un petit peu à la Louve.
C'est clair, il y a plein de points. Après, on n'est pas obligé de travailler dans l'entrepôt en Auvergne pour avoir des prix plus faibles. On passe maintenant du bio à l'agriculture et c'est sur Le Figaro. En absence des salons, les agriculteurs s'invitent dans les téléphones des Français. Alors, Olivier, les 27 février, donc samedi dernier, aurait dû marquer les débuts du salon favori des Français, les salons de l'agriculture. Mais cette année, ça se passera différemment.
27 février, c'est samedi prochain.
Bah, on va diffuser mardi, donc
ah oui,
ça sera avant.
Excusez-moi. Oui, comme chaque année, hein, moi, normalement, je vais faire mon petit tour au salon de l'agriculture. Et là, cette année, bah, malheureusement, avec la crise sanitaire, c'est pas possible. Hein, tous les salons sont annulés.
C'est clair.
Et le collectif ICI La Terre a eu une idée assez intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont réuni 130 producteurs qui vont répondre au téléphone, en fait. Donc, vous êtes citoyen, vous inscrivez sur le site Ici la Terre et vous pouvez appeler ou être appelé, je crois, par un agriculteur à qui vous allez pouvoir poser toutes vos questions.
Génial, c'est une hotline agriculteur, quoi.
Voilà.
J'adore les concepts.
Donc après, je ne sais pas si on peut choisir. Voilà, je veux savoir comment les vaches sont élevées dans telle région. Mais je pense qu'il y a une
diversité. Et tu as un éleveur des vaches qui t'appelle et qui t'explique voilà. Tout, quoi. Bah, alors, franchement, c'est chouette, ça.
Bah, sinon, vous pouvez les trouver aussi sur Twitter. Hein, pour ceux qui fouillent un petit peu, il y a des vraies stars chez les agriculteurs.
Hein. Oui, mais la possibilité d'avoir 130 agriculteurs qui se mettent à disposition des Français pour expliquer leur métier, bien. Je trouve ça vraiment génial.
Je trouve ça bien que les agriculteurs prennent le temps de communiquer avec les citoyens.
Important.
Parce qu'on parle tellement de leur métier... Sans le connaître finalement,
c'est clair.
Que c'est toujours très compliqué et ceux qui peuvent le mieux parler de leur métier, c'est quand même les agriculteurs.
On est d'accord. Et pour ceux qui s'intéressent aux agriculteurs, j'invite également nos auditeurs à aller écouter l'émission Sur les champs, qui est sur Business of Bouffe, où Humbre et Camille donnent la parole à des agriculteurs qui innovent en France. Et on apprend beaucoup en écoutant ces agriculteurs pendant une heure qui nous expliquent la difficulté de leur métier, mais aussi la passion qu'ils portent par ces métiers-là. Bon, dès l'agriculture, on change complètement des sujets pour parler des pauses déjeuner. Donc, c'est sur les Figaro encore une fois. Comment la crise sanitaire a transformé nos pauses déjeuner? Olivier, dans cet article, on s'intéresse à la solitude des pauses déjeuner pendant la crise sanitaire.
Oui, en fait, c'est le contexte veut ça. Entre le télétravail, les restaurants qui sont fermés, ça impacte la vie de beaucoup de monde,
c'est
finalement.
Clair,
hein.
C'est clair.
Moi, je pense aux gens qui, effectivement, tous ces commerciaux qui sont sur la route, qui sont obligés de manger dans leur voiture un pauvre sandwich.
Il y a justement Henri, qui est promoteur des ventes dans l'agroalimentaire. On lui a demandé s'il passait une bonne pause déjeuner et il s'emporte. Il dit : j'en ai marre des déjeuners dans sandwich et des crudités les midis, seul dans ma voiture.
Ouais, et surtout, je pense qu'ils en ont marre de manger froid, quoi. Plein hiver, on a envie d'un bon plat chaud et on peut pas le trouver. Donc,
oui.
C'est vrai que c'est une vraie problématique, ça. Après, il y a l'autre problématique des gens qui doivent aller au bureau. Donc là, il y a les règles de distanciation sociale aussi.
Oui.
Il y a ceux qui télétravaillent, donc qui soit se font livrer, soit font à manger eux-mêmes. Donc, on se remet à la cuisine.
Oui, il y a d'autres qui organisent des déjeuners dans les locaux. Par exemple, il y a une fille, Maude, qui travaille dans une structure culturelle parisienne. Elle dit que dans sa boîte, en fait, chacun ramène son Tupperware. On a la team Tup. On préfère manger sain et pas cher. Et en fait, c'est des gens qui aiment cuisiner. C'est comme chez Business of Bouffe. On a la chance d'avoir une cour. On aime bien cuisiner. Et donc, tous les midis, on fait notre repas dehors avec des produits faits maison.
Et il y a une info un peu cocasse que j'ai trouvée dans cet article aussi, c'est qu'en fait, il y a un décret qui est paru le 14 février dernier.
J'ai vu ça, c'est énorme.
Qui autorise les salariés à déjeuner à leur bureau devant leur ordinateur.
Parce qu'avant, c'était interdit.
Avant, c'était interdit. Alors moi, je suis pas en entreprise, j'étais pas au courant de cet article-là. Moi, il m'a bien fait rire. Donc, j'ai une pensée pour tous ceux qui voulaient manger devant leur ordi et qui ne pouvaient pas le faire.
J'adore ça. Moi, quand je bossais en corporate, je déjeunais parfois devant mon ordinateur. On m'a jamais amené en prison, mais je veux bien croire qu'en France, cela a été interdit. Les déjeuners d'affaires aussi sont moins fréquents parce que quand ils ont lieu aujourd'hui, c'est maximum 6 personnes dans une salle des réunions avec un plateau repas. Ça fait moins rêver quand même.
Et en fait, il y a un chiffre qui résume tout ça, c'est 700 millions d'euros. C'est le montant estimé des tickets restaurants qui n'ont pas été utilisés en 2020.
Énorme. 700
Donc,
millions d'euros.
Le gouvernement, le ministère de l'économie, il a décidé de prolonger la durée de validité tickets jusqu'en septembre 2021.
C'est normal, les restos sont fermés et là, ça va aider la reprise un peu de la restauration avec ces 700 millions d'euros en épargne finalement.
Oui, c'est un peu ça.
Mais ce que j'aime bien dans l'article, c'est qu'il y a aussi ceux qui regardent, qui voient les verres moitié pleins, qui ont un regard plutôt optimiste de la situation. Pour Xavier, expert comptable, la crise sanitaire était une véritable libération. Je ne suis plus obligé de manger avec mes collègues qui parlent tout le temps de leur dossier en cours. J'adore. Et maintenant, en télétravail, je peux prendre des heures de pause si je veux. Et en évitant les restaurants, j'ai aussi perdu du poids. Mais bravo pour ton optimisme, Xavier. On apprécie beaucoup ça. Bon, et dès la pause déjeuner au travail, on passe aux pauses déjeuner à l'école avec un sujet très polémique. C'est sur BFM TV à Lyon, un menu unique dans les cantines à partir de lundi. Olivier, la mairie écologiste de Lyon, va imposer un menu unique sans viande dans les cantines scolaires dès la rentrée des vacances de février, provoquant l'indignation de l'opposition des droites.
Voilà, donc c'est un sujet qui fait vraiment beaucoup parler là depuis quelques jours. Alors à la fois politiquement et qui fait aussi réagir le monde agricole. Hein. Est-ce que déjà on doit imposer un menu unique dans les cantines? Et est-ce que d'autre part, on peut imposer un menu sans viande? Alors, c'est pas un menu végétarien, parce qu'a priori,
il y a du poisson.
Il y a du poisson et je sais plus quoi d'autre.
Il y a des œufs, bah bon.
Ouais, des œufs. Mais en tout cas, il n'y a pas de viande. Mm-hmm. Et en fait, ce que dit la mairie, c'est qu'il n'y a pas de viande parce que ça permet d'aller plus vite pour servir et du coup respecter les règles sanitaires.
Bah en fait, j'ai dû lire l'article deux fois pour bien comprendre les trucs. Donc en fait, il y a deux choses. D'abord, c'est l'idée du menu unique avec viande, sans viande, peu importe. Ils disent qu'avoir un menu unique, c'est justifié pour mieux appliquer les protocoles sanitaires. Comme ça, on peut garder plus de distance et pour les services, ça va plus vite. La dimension sans viande, c'est une autre chose en fait. C'est qu'ils disent pour correspondre au goût du plus grand nombre, on a décidé d'enlever la viande. Un menu imposé pour les protocoles sanitaires, pourquoi pas, mais un menu sans viande imposé, c'est là que certains réagissent d'une façon assez...
Forcément, après on comprend les éleveurs français qui bah, du coup, ça se jette un peu l'opprobre sur la viande de nouveau. La viande, c'est pas bon pour la santé, etc. etc. Reste que ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est que les cantines se fournissent un peu plus aussi en viande française, parce qu'on le voit par exemple sur la volaille.
Ça, ouais.
80% de la volaille qu'on a en restauration collective, c'est de la volaille qui est importée.
Oui, et on disait l'autre fois, la viande bovine, c'est les vaches des fermes allemandes,
voilà.
Souvent en cantine.
Donc, peut-être aussi pour clore cette polémique, il faudrait inciter un peu plus les cantines et les restaurants scolaires à se fournir en viande française.
Et je pense que si la polémique prend une autre dimension, puisqu'elle se passe, tout ça se passe à Lyon, et il y a une élue des Républicains, Béatrice, qui dit « Dans la ville de la gastronomie, la majorité écologiste profite de la crise sanitaire pour faire passer des mesures idéologiques sans aucune concertation. » Donc, elle s'oppose fortement à cette situation. Après, il faut rappeler que durant la campagne, en fait, le nouveau maire Grégory Doucet avait pris l'engagement de proposer un menu végétarien au choix tous les jours de la semaine dans les écoles. Et donc, ça veut dire que la promesse, elle était là, elle a été élue avec cette promesse-là. Donc, à un moment donné, il faut l'appliquer aussi.
Après, il y a une question de choix. On n'impose pas, on laisse le choix. Si l'enfant ne veut pas manger de viande, il ne mangera pas de viande. Celui qui a envie de manger de la viande, il mangera de la viande. Après, l'argument contre ça aussi, c'est que pour certains enfants de familles modestes, c'est souvent à la cantine qu'ils mangent de la viande.
Oui.
Bon.
Écoute, c'est un sujet qui est complexe, on ne va pas trouver la solution aujourd'hui.
C'est assez polémique, mais on espère en tout cas que...
Mais de toute façon, on le sait que la consommation des viandes, elle baisse, et donc que les menus à l'école, au fur et à mesure, il va avoir de moins en moins de viandes. On aime, on n'aime pas, on est parti dans cette direction-là.
Oui, c'est sûr.
On passe du menu sans viande au chocolat sans lait. C'est sur Les Échos. KitKat vegan, la course au chocolat végétalien s'accélère. Olivier, nous avons évoqué ce lancement la semaine dernière avec un tweet qui annonçait les produits. Mais dans cet article, en fait, on apprend davantage sur cette initiative.
Oui, déjà, on connaît le nom. Il s'appelle KitKat V.
Comme
vegan, hein, je pense.
C'est pas très compliqué.
Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières initiatives d'un grand acteur du monde de la chocolaterie, Nestlé en l'occurrence. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, et ça, moi, j'ai découvert ça, hein, c'est que c'est compliqué de faire des alternatives véganes pour du chocolat au lait.
Ouais. Moi, je pensais que c'était facile. On remplace les laits par les laits de soja ou pour un autre type
de lait. A priori, c'est plus compliqué à développer que ce qu'on pense, parce qu'il faut que l'alternative au lait se marie bien avec le cacao et le sucre pour arriver à une texture crémeuse.
C'est qui dit un responsable chez Nestlé, il dit en fait d'autres substituts à base de soja ou d'amandes peuvent créer des saveurs désagréables en fait.
Voilà.
Donc finalement on a un chocolat qui est pas bon, ça va pas marcher quoi.
Voilà, et du coup, en fait, c'est pour ça aussi que la plupart des alternatives au chocolat, enfin, vegan, des chocolats vegan, sont des chocolats noirs.
Tout à fait. Et moi, ce que j'étais surpris de la solution qu'a trouvé Nestlé, ils utilisent en fait une formule à base de riz comme substitut du lait, en fait. Donc, voilà. C'est pas du lait d'amoine ou lait notre type de lait végétal, c'est vraiment à base de riz pour arriver à trouver les bons compromis gustatifs, quoi.
Voilà, donc à voir si le produit sera lancé au Royaume-Uni dans un premier temps. Hein. Mm-hmm. Et je pense que s'il remporte un certain succès, on imagine que les autres acteurs travaillent aussi sur des alternatives de ce type-là.
Tout à fait. Il parle de Mars, qui a déjà une version vegan de sa célèbre bar Bounty. Cadbury, qui appartient à Mondelez, a également annoncé son intention de fabriquer un chocolat à base de lait végétal. Donc au fur et à mesure, les industriels vont dans ce sens-là parce que la demande des consommateurs augmente par rapport à ça.
Moi, je suis curieux de voir le goût que ce KitKat vegan a par rapport au KitKat normal.
Bah, c'est lui à base d'EI, ça doit être plutôt bon en fait.
Ouais.
Écoute, on part direction aux États-Unis avec un interview du fondateur de Microsoft. C'est sur les MIT Technology Review, Bill Gates, Rich Nations should shift entirely to synthetic beef. Les pays riches devraient se tourner entièrement vers les bœufs synthétiques. Alors, Bill Gates, il prend une position assez extrémiste.
Alors, il prend une position extrémiste, certes, mais il faut aussi avoir le contexte, c'est que Bill Gates est aussi investisseur dans pas mal d'entreprises qui proposent des alternatives à la viande. Hein.
Comme par hasard.
Oui, voilà. Donc, Bill Gates a des billes dans Memphis Meats, dans Impossible Foods, dans Beyond Meat.
Il a mis
donc,
partout. Ce...
Voilà. Ah, bah. Donc, bon, il y a aussi un intérêt, certes. En tout cas, il sort un livre... sur How to Avoid a Climate Disaster, comment éviter une catastrophe climatique. Donc, dans ce livre, il parle un peu de toutes les technologies. Il met en avant pas mal de technologies et d'innovations justement pour répondre à tout ça. Ouais. Et un des chapitres est consacré à l'alimentaire. Donc là, c'est surtout le titre qui est parlant. Hein, c'est que selon lui, ce serait surtout aux nations riches de passer à du bœuf synthétique, enfin du bœuf in vitro, enfin comme on l'appelle, et les autres pays n'auraient pas forcément à y passer parce que la consommation de viande est inférieure à la nôtre. Mm-hmm. Mais bon, ça reste une solution comme une autre. Bon, ça,
oui, et ça reste quand même une analyse qui est très axée sur le climat. Donc évidemment, d'un point de vue climatique, ça serait intéressant de manger de bœuf synthétique. Après, il faut parler aussi d'un point de vue nutritionnel. Est-ce que c'est intéressant pour nos enfants de manger des produits ultra transformés pour imiter la viande ? Moi, je ne suis pas convaincu. Et moi, je suis peut-être naïf, mais moi, je crois un monde avec beaucoup moins de viande. Ça, c'est sûr, on n'a pas les choix. Par contre, je préfère manger des bons légumes bien cuisinés que de la viande synthétique transformée en labo. Ça m'intéresse beaucoup moins.
Ça, c'est sûr.
Après, ça, c'est ma position. Je ne sais pas si c'est la position des Américains en général. Je pense que ils sont plutôt adeptes à ces types de produits, quoi.
Oui, parce que c'est des viandes qui sont utilisées principalement pour faire des galettes de burgers. Hein.
Voilà, c'est
donc,
pour les burgers.
Vu la consommation de burgers aux US,
c'est
ça
clair.
Peut avoir du sens.
Ah oui.
Chez nous, je ne sais pas, mais moi, je préfère encore ma bonne côte de bœuf.
Voilà, une bonne salade des betteraves avec des pommes de terre, pourquoi pas. Et on va parler encore une fois d'LVMH. En fait, on quitte LVMH, mais LVMH ne nous quitte jamais. Donc, c'est sur It's Business, encore une fois, toujours aux États-Unis, New York Times, Jay-Z and LVMH, two of the world's biggest brands going to business. Jay-Z et LVMH, deux des plus grandes marques mondiales, font du business. Olivier, LVMH renforce son portefeuille champagne avec l'acquisition de 50% de la marque Armand de Brignac.
Oui, Armand de Brignac, en fait, c'est une marque de champagne qui est couramment appelée Ace of Spades. En référence
à la chanson dont
Jay-Z...
On allait jouer la chanson, mais on s'est dit qu'on pourrait avoir des problèmes de droits avec Jay-Z. On ne veut pas chercher de problème avec Jay-Z.
Et en fait, Jay-Z a fait l'acquisition de cette maison-là en 2014, suite a priori à un différend avec son champagne préféré, le Crystal Rodreur.
Ouais.
Hein. Et du coup, LVMH vient de faire l'acquisition de 50% de cette marque. Alors, vous achetez une marque qui appartient à Jay-Z, vous achetez aussi une partie de tout l'aura de Jay-Z, à la fois dans la musique, sur les réseaux sociaux et de tout le pouvoir de distribution dans les... En fait, c'est un champagne qui est distribué un peu de manière confidentielle dans certains circuits de distribution.
Surtout un champagne qui a un positionnement super luxe avec un prix d'entrée à $300 la bouteille. Il ne faut pas l'oublier. Et on rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, qu'LVMH détient déjà les marques Moët et Chandon, Veuve et Clicquot, Mercier, Ruinart, Dom Pérignon et Krug. Donc, ça vient renforcer les portefeuilles champagne d'LVMH. Et ce qui est intéressant aussi... Il faut comprendre, dans les business des vins et spiritueux, un distributeur comme Moët Hennessy, qui a la division donc vins et spiritueux d'LVMH, ils ont souvent des accords d'exclusivité avec un hôtel, restaurant, un bar, où tu vends en fait tous tes produits. Donc tu vends tes whisky, tes gins, tes vodka, etc. Et avoir un champagne comme celui-là de Jay-Z, qui est très demandé par une partie de la population américaine, la population afro-américaine, ça permet à LVMH de rentrer dans des établissements où ils n'étaient pas présents auparavant. Donc c'est très stratégique pour eux, pour développer leur marché, leur business au marché US, quoi.
Donc en fait, tu achètes du Jay-Z pour vendre du Moët et du Ruin.
C'est un peu ça. Et justement, c'est comme tu disais, c'est s'associer aussi la marque LVMH et des initiatives LVMH avec Jay-Z, qui a une image des marques forte aux États-Unis, mais partout dans le monde. Hein. Et c'est pas la première fois qu'LVMH s'associe à des stars de la culture pop américaine. Il y a 2 ans, ils ont lancé une marque des modes, un partenariat avec Rihanna qui s'appelle Fendi ou Zenti. Oui. Donc voilà, c'est un peu dans les habitudes d'LVMH de chercher ces types de des deals, quoi.
Oui, on avait parlé il y a quelques temps des stars, de ces acteurs américains qui créent, qui se mettent sur une marque de vodka. George Clooney avait une marque de tequila qu'il a revendu très cher.
Oui.
Donc c'est vrai que on achète aussi...
Une
égérie et tous les followers de ces gens-là sur Instagram, sur Facebook, etc.
C'est clair. Bah, je trouve que c'est très malin pour LVMH. Je ne sais pas si moi, personnellement, je vais passer à l'achat d'Armand Desbrignac, mais je pense que c'est un move business qui est très intelligent. On va continuer sur la consommation d'alcool aux États-Unis avec un dernier article sur Bloomberg Business Week. Online booze gets a COVID boost. J'adore les titres. L'alcool en ligne explose avec les COVID. Olivier, on apprend que les COVID, évidemment, a fortement augmenté la part des marchés de l'e-commerce dans la vente d'alcool aux US.
Oui, en 2020, comme partout. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, la vente d'alcool en ligne est très, très régulée.
C'est incroyable.
Et j'ai découvert ça dans cet article, c'est super intéressant. Hein. Et en fait, un grand brasseur américain comme Molson Coors, il a vu ses ventes en ligne progresser de 230% sur les 11 premiers mois de 2020.
Incroyable.
Forcément, les Américains, ils étaient comme nous. Les restaurants étaient fermés, les bars aussi. Si vous voulez vous boire un petit verre de bière ou de vodka, vous allez peut-être voir en ligne si vous ne pouvez pas aller au supermarché, quoi.
C'est normal. Et un chiffre très intéressant que je ne connaissais pas, avant la pandémie, il n'y avait que 20% des Américains qui savaient qu'il était possible d'acheter de la bière sur Internet, en fait.
Ouais.
Mais je pense qu'il faut comprendre dans ces marchés, c'est les marchés américains de l'alcool, il est très complexe. C'est une complexité qui date de la prohibition des années 30, en fait. Et ils ont instauré par la suite une règle qui s'appelle
Three-tier system.
Ouais, three-tier system. Voilà, qui a 3 couches en fait des distributions. Tu as les producteurs, les distributeurs et les revendeurs, et tu ne peux assurer qu'une des étapes de la chaîne des valeurs. Soit tu es producteur, soit tu es distributeur, soit tu es revendeur. Tu ne peux pas faire 2 ou 3 de ces étapes-là. Du coup, en fait, quand tu achètes de l'alcool, c'est impossible d'avoir du direct du consommateur, parce qu'en fait, il y a toujours 3 intermédiaires au milieu.
Ouais, et du coup, chaque intermédiaire prend sa com au passage. Donc, le prix de vente s'en ressent aussi pour le consommateur.
Et d'un point de vue logistique, c'est un
gros micmac. Et surtout, non seulement ça, mais chaque État a ses propres lois
en plus
régulant la vente d'alcool.
Voilà.
Donc, j'ai découvert, par exemple, qu'il n'y a qu'une douzaine d'États qui permettent d'exporter dans un autre État américain.
Voilà, tu ne peux pas vendre delà de la frontière de l'État.
Voilà, donc il y a des États où, si vous êtes un fabricant de bière ou de gin ou je ne sais pas quoi, vous ne pouvez pas envoyer des caisses... Dans l'état d'à côté, quoi.
Ouais, c'est hyper complexe, en fait.
Ouais.
Et c'est la difficulté de ces marchés qui est parmi les plus gros marchés, je pense, c'est les plus gros marchés d'alcool au monde, mais les plus difficiles à craquer, en fait.
Ouais, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces acteurs-là, ils n'avaient pas l'habitude, forcément, ils n'étaient pas rodés à la vente en ligne. Hein, donc, ils se sont appuyés dans un premier temps sur les services offerts par des startups comme Drizzly, Thirsty, Speakeasy.
Mm-hmm.
Et ces startups-là, forcément, elles ont connu un boom de chiffre d'affaires. Il y a Drizzly qui vient d'être acheté là, ce mois-ci par Uber Eats.
Ah bah ouais.
Donc c'est vraiment tout un marché qui est en train de se créer. Mm-hmm. Et effectivement, les États-Unis, les ventes en ligne d'alcool, c'était 5% à peu près l'an dernier. Et on estime que ça va passer à 20% d'ici 5 ans.
Énorme. Et c'est un marché qui représente 120 milliards de dollars aux US. C'est pas un petit marché. Ouais, ce qui est intéressant du modèle de Drizzly, justement, c'est qu'on a l'impression de passer commande directement sur Drizzly. Mais en fait, le modèle derrière, il est hyper complexe parce que Drizzly, comme c'est un distributeur, je suppose, ils n'ont pas les droits de livrer les consommateurs finaux. Il faut que ça soit fait par les revendeurs. Et donc, du coup, leurs livreurs sont en fait des livreurs qui travaillent pour les boutiques d'alcool et c'est eux qui livrent les consommateurs finaux. Donc, tu imagines la complexité du système.
C'est un peu Allo Resto, hein, en fait, si tu penses, tu fais un parallèle.
C'est ça, bah, c'est bien
c'est
vu.
C'est un peu ça.
C'est un Allo Resto, une espèce de place des marchés, des boutiques voilà. d'alcool. Quoi. Écoute, on va finir l'épisode d'aujourd'hui avec deux initiatives solidaires de cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Olivier ?
Oui, alors la première, ça concerne les agriculteurs. Ça s'appelle Les Agriculteurs ont du cœur. Mmh. Donc, depuis la mi-février, c'est un collectif d'acteurs du monde agricole qui s'est structuré et qui propose des actions solidaires permettant de mobiliser des ressources alimentaires. Donc, des agriculteurs peuvent faire un don de lait ou de certaines de leurs productions, mais aussi de proposer des offres d'emploi parce que comme l'an dernier, on va se retrouver peut-être reconfiné là le mois prochain. Donc, on le souhaite pas, évidemment, mais il va y avoir de nouveau les asperges qui vont être de saison. Donc, il faut trouver des gens pour aller ramasser les asperges, pour aller ramasser les fraises. Donc, si les agriculteurs nous écoutent, vous pouvez participer. Il y a toutes les coordonnées sur la newsletter.
Super. Et il y a une deuxième initiative aussi dédiée aux étudiants.
Oui, cette fois-ci, c'est la communauté écotable qui a mis en place une cagnotte, un financement participatif, pardon, pour proposer des repas, de cuisiner des repas.
500 repas par semaine, en fait, c'est l'ambition.
Oui, c'est l'ambition. Donc, vous pouvez donner pour payer 5-10 repas à des étudiants et ce sera cuisiné dans les restaurants partenaires d'Écotable et distribué gratuitement aux étudiants.
Ils sont top chez Écotable, on les salue. Et on termine avec une petite perle sur les réseaux sociaux, mais c'est encore une fois une belle initiative envers les étudiants.
Voilà, c'est la coopérative Le Gouessant qui a offert 8 tonnes de pommes de terre aux Crous de Rennes et de Vannes. Donc, je pense que les étudiants vont pouvoir faire la razzia de frites dans les prochaines semaines.
Bon, Olivier, encore une fois, merci beaucoup pour cet épisode de It's Business. La semaine prochaine, on revient comme d'habitude et j'espère peut-être avec un épisode spécial Salon de l'agriculture.
Au revoir à tous.
Au revoir, merci.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt !